Il est 13h sur France Inter. Et c'est Cécile Bidot qui nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour. La Corse n'est pas encore sous cloche, mais de nouvelles mesures de restriction vont être mises en place dans les heures qui viennent pour faire face à la quatrième vague de Covid-19. Les zones où le masque est obligatoire vont être étendues. Les restaurants fermeront à 1h du matin au plus tard. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le plan blanc est activé. Un an après la catastrophe à Beyrouth, les mots sont encore plus durs. En ouverture de la conférence internationale sur le Liban, Emmanuel Macron accuse les dirigeants de faire le pari du pourrissement. Le 4 août 2020, l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium a fait 200 morts et détruit une partie de la ville. Nous sommes sur place à Beyrouth. Certains possèdent un savoir-faire unique au monde. Les artisans d'art français souffrent eux aussi de la crise. Le plan de relance les concerne également. Une enveloppe d'1 million d'euros leur est réservée. Dans un instant, nous allons à Tokyo prendre des nouvelles de Kevin Mayer. Le décathlonien français sera-t-il le meilleur aujourd'hui malgré son dos qui le fait souffrir? Nous verrons aussi que, contrairement à l'athlétisme, les sports collectifs tricolores sont en pleine forme. Et puis nous irons à la découverte des flamants roses de Camargue à la fin de ce journal. Une colonie de plus de 150 000 oiseaux est observée de près.
France Inter.
Aux Jeux Olympiques de Tokyo, le chemin de croix de Kevin Mayer se poursuit. Blessé au dos, le décathlonien français souffre depuis une semaine. Le détenteur du record du monde est quatrième après les trois premières épreuves. L'or olympique qu'il est venu chercher est donc encore loin. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Tokyo. Kevin Mayer semble s'être un peu rassuré au saut en hauteur.
Oh que oui, il nous rassure, le Français, dans cette quatrième épreuve. 4 sauts tentés par Kevin Mayer et 4 sauts réussis. Il a fait l'impasse sur le début du concours, sur les barres les plus petites, et il a commencé son concours à 1m93, puis 1m96, 1m99 et un quatrième saut à 2m02. Il les a tous réussis, et surtout avec beaucoup de facilité. On a observé évidemment son visage, son corps, et il n'a montré aucun signe de gêne, aucun signe de douleur. En tout cas, voilà, qui le relance totalement et qui nous rassure aussi pour la suite de ce décathlon, hein, qui, comme son nom l'indique, c'est 10 épreuves. Donc il faut savoir durer, il faut savoir tenir les efforts dans la durée. Et il va aller tenter une nouvelle barre, Kevin Mayer, parce qu'il va tenter le tout pour le tout pour aller combler son retard. Vous l'avez rappelé, il est quatrième après 3 épreuves, donc au pied du podium. Il a beaucoup de retard sur celui qui mène ce concours, qui survole ce concours, le Canadien Damian Varner, qui lui a échoué à 2m02 pour l'instant. Et donc Kevin Mayer, s'il arrive à passer une barre supérieure, il prendra des points supplémentaires et refera une partie de son retard. Il restera une épreuve ce soir, le 400 mètres pour ces décathloniens, et on sera déjà à mi-parcours dans ce décathlon avant la suite demain évidemment, et le verdict ici au stade olympique de Tokyo.
Et on retourne à Tokyo à la fin de ce journal pour du basket, du volley, du hand entre autres. En pleine période touristique, de nouvelles restrictions sont imposées en Corse. La situation sanitaire est préoccupante avec une quatrième vague particulièrement violente et qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Le taux d'incidence du Covid-19 est 3 fois supérieur au niveau national. Chez les 15-19 ans, il est de 1887 pour 100 000 habitants. La tension dans les hôpitaux a conduit les autorités à déclencher le plan blanc hier. On passe au niveau supérieur aujourd'hui avec de nouvelles mesures. Que détaille le préfet de Haute-Corse, François Ravier.
La première de ces mesures, c'est les hôtels, cafés, restaurants, mais également dans les campings. L'ensemble des activités se terminera à 1h du matin. Deuxième mesure, l'idée, c'est d'orienter le plus possible les activités vers les endroits soumis à un pass sanitaire. Donc c'est l'interdiction des kermesses, des fêtes de village, des feux d'artifice, des concours de boules et autres rassemblements festifs de plus de 10 personnes sur la voie publique. Interdiction également des rassemblements organisés ou spontanés de plus de 10 personnes sur les plages ou dans les parcs après 21h. Les concerts en intérieur, dans les bars et dans les restaurants, restent interdits. Sur les processions, le port du masque devra être respecté et également devra être respecté une distance de 2 mètres entre chaque rangée de processionnaires. On étend l'obligation du port de masque dans certains espaces extérieurs.
François Ravier, préfet de Haute-Corse. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est également dans le rouge. Le plan blanc est activé comme en Corse pour aider les hôpitaux à faire face à l'afflux de malades. Il va permettre d'ouvrir une centaine de lits supplémentaires d'ici une semaine. En PACA, le nombre d'hospitalisations de malades du Covid a fait un bond de 50% en une semaine. Le professeur Marc Léon, chef du service anesthésie-réanimation de l'hôpital Nord de Marseille, espère que ce plan blanc suffira à contenir la vague.
On avait anticipé, hein. On pensait cette situation vers septembre, mi-septembre, et finalement on a un mois d'avance, malheureusement. Je pense qu'on va revivre une nouvelle vague, comme maintenant, malheureusement, on est plutôt habitué, hein, c'est évident aujourd'hui qu'il y a une augmentation qui est quand même très aiguë. Il faudra faire face aussi aux autres pathologies parce que il y a un équilibre à garder, parce qu'il y a beaucoup de patients non Covid, parce qu'il y a beaucoup de tourisme actuellement et donc ça fait un ajout de patients, en sachant qu'en plus les services d'aval, c'est-à-dire ce qu'on appelle les services d'hospitalisation conventionnelle, hors des soins critiques et des réanimations, sont un peu pénalisés actuellement parce que on a fermé quelques lits comme on fait chaque année pendant les périodes de vacances scolaires.
Le médecin chef du service anesthésie réanimation de l'hôpital Nord de Marseille, micro de Mathilde Vinceneux. Et alors que l'on rappelle les soignants en vacances, d'autres se mettent en grève. Le syndicat Sud Santé a lancé un appel à durée illimitée à partir d'aujourd'hui. Il proteste contre l'obligation vaccinale dans le secteur. À partir du 15 septembre, un salarié dans le milieu hospitalier qui ne sera pas vacciné pourra voir son contrat de travail suspendu. Le Sénégal est à son tour touché par le Covid-19. Longtemps épargné par la pandémie, le pays est en train de faire face à une explosion des cas à cause du variant Delta. De quelques dizaines tout au plus, il y a deux mois, on est passé à un millier de contaminations par jour. À Dakar, les hôpitaux sont déjà submergés. Le reportage de notre correspondant sur place, Omar Ouaman.
Dans la salle de réanimation de l'hôpital Idrissa Pouyé de Dakar, tous les lits dédiés aux malades du Covid sont occupés. Le directeur Saliou Tal.
Je dirais que c'est une situation très préoccupante. La troisième vague est beaucoup plus difficile à gérer parce qu'il y a beaucoup plus de malades qui sont dans des situations vraiment de détresse. Et c'est là où c'est un peu plus difficile.
Vous craignez le pire ?
Ah oui, si ça continue cette tendance-là, on craint le pire.
Cet hôpital est à l'image de toutes les structures publiques de santé de Dakar qui traitent les patients atteints du coronavirus au bord de la saturation. Mais ce qui inquiète surtout Makoudou Mbodj, médecin en charge de ce service de réanimation, c'est le profil des malades.
Le profil a changé. Nous racontons des sujets de plus en plus jeunes, des malades essentiellement non vaccinés. Donc attention, attention, attention.
Des services débordés et des personnels soignants épuisés, comme le docteur Edmond Diatta.
Nous sommes au bout du rouleau, tous les médecins fatigués. Donc là, l'heure est grave, il faut que les gens respectent les mesures barrières pour vaincre le virus.
Et si la situation devait s'aggraver, les hôpitaux de Dakar seraient appelés à déprogrammer les actes chirurgicaux non urgents afin d'augmenter le nombre de lits, notamment en réanimation. Dakar, Omar Ouaman, France Inter.
Un an après la catastrophe du port de Beyrouth, les Libanais pleurent toujours leurs 214 morts. Le 4 août 2020, peu après 18 heures, des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium explosent dans le port de Beyrouth. Un nuage de fumée et de cendres inonde et dévaste la ville, faisant plus de 6000 blessés et 300 000 sans-abri. Aujourd'hui, Beyrouth emporte encore les stigmates et la reconstruction des bâtiments comme des âmes est lente. Nous sommes à Beyrouth avec Laure Stéphan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de France Inter au Liban. Alors, à quelques heures des commémorations de ce premier anniversaire, quelle est l'atmosphère sur place ?
Écoutez, c'est une journée sous le signe du deuil et de la colère, de l'émotion. Personne à Beyrouth n'a oublié ce qu'il faisait l'an dernier, le 4 août, lorsqu'une gigantesque déflagration a balayé le port et les quartiers voisins, ni les scènes d'apocalypse qui ont suivi. Les familles de victimes, des groupes de la société civile ou des forces politiques alternatives mobilisent au port et ses alentours. Mais le point fort de cette journée, c'est en fin d'après-midi. Des Libanais m'ont dit préférer rester chez eux parce que le choc est trop douloureux à revivre. Mais bien d'autres veulent rendre hommage aux victimes. Une minute de silence leur sera dédiée lors d'une célébration interreligieuse au port. Signe de la cassure avec les dirigeants politiques, aucun d'entre eux n'a été convié à cette cérémonie.
Donc pas de cérémonie officielle, mais les habitants de Beyrouth ont bien l'intention de dire leur colère, de mettre la pression sur le Parlement ?
En tout cas, c'est l'intention d'une partie des manifestants, se rendre aux abords du Parlement et y réclamer des comptes. Ce Parlement qui a bloqué toute réparation morale pour les familles de victimes jusqu'ici et qui dit aujourd'hui vouloir nommer une commission parlementaire sur la double explosion au port. Tout cela sonne assez cynique, de la même manière que les déclarations de politiciens ces derniers jours qui se disent favorables à la justice alors qu'ils n'ont cessé de la desservir. Se rassembler près du Parlement, c'est aussi vouloir reprendre la contestation, ce vent de révolte qui avait soufflé au Liban fin 2019 au même endroit. La mobilisation s'est essoufflée depuis, mais pas la colère ni les revendications.
Oui, vous le disiez, la classe dirigeante libanaise est aussi accusée d'entraver l'enquête sur les causes de cette explosion. Que sait-on aujourd'hui ?
Pas grand-chose, en fait, au niveau officiel. Un journaliste libanais, lui, avait esquissé il y a quelques mois la piste d'un trafic vers le régime syrien du stock de nitrate d'ammonium, celui qui a explosé il y a un an. Mais l'enquête n'a pas établi les circonstances exactes du drame. Elle n'a pas dit non plus si ce stock a été conservé par négligence ou de façon délibérée.
Merci, Laure Stéphane, correspondante de France Inter à Beyrouth. Ce premier anniversaire est également marqué par une troisième conférence internationale qui s'est ouverte il y a un peu plus d'une heure sous l'égide de la France et des Nations Unies. Les États vont se mettre d'accord sur une nouvelle aide à accorder au peuple libanais. Emmanuel Macron s'est exprimé en ouverture de cette visioconférence. Il annonce une enveloppe de 100 millions d'euros de la part de la France et fustige le comportement des dirigeants libanais qui ont commis, selon lui, une faute historique et morale.
Je continue de considérer que la crise que vit le Liban n'est pas un coup du sort ni une fatalité. Elle est le fruit de faillites individuelles et collectives et de dysfonctionnements injustifiables. Elle résulte de toutes les défaillances d'un modèle qui s'est détourné du bien public et de l'intérêt général. Et l'ensemble de la classe politique libanaise, toute la classe politique libanaise, n'a eu de cesse de l'aggraver en faisant passer avant tout ses intérêts individuels et partisans avant les intérêts du peuple libanais. Depuis, tous les rendez-vous ont été manqués. Aucun engagement n'a été tenu. Le Liban mérite définitivement mieux.
Alors, dès le départ, Emmanuel Macron a été très mobilisé sur ce dossier au nom des liens qui unissent historiquement la France et le Liban. Il était dans les ruines du port de Beyrouth dès le surlendemain de l'explosion et aujourd'hui encore en première ligne lors de cette conférence internationale. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Pour autant, ce volontarisme tarde à porter ses fruits.
Alors, la France l'a montré, elle est aux côtés des Libanais. Emmanuel Macron n'a cessé de mobiliser la communauté internationale pour lever une aide d'urgence afin de sortir le Liban de la crise dans laquelle le pays s'enfonce. La conférence d'aujourd'hui est la troisième depuis un an. La France, ancienne puissance mandataire, est clairement une locomotive. Mais Emmanuel Macron, qui avait appelé à de profonds changements politiques en se rendant sur place deux jours après l'explosion, le chef de l'État doit se heurter au principe de réalité au Liban. Rien n'est simple, surtout quand il s'agit de constituer un gouvernement. Depuis un an, trois premiers ministres s'y sont essayés en vain. Nommé fin juillet, Najim Mikati tente depuis difficile de mettre en place son équipe, d'où l'impatience de Paris qui brandit la menace de sanctions contre ceux qui entravent la formation d'un gouvernement. Car c'est le seul moyen d'engager des réformes en profondeur et de reprendre les négociations avec le FMI, faute de quoi la situation continuera de se dégrader et la communauté internationale de pallier les défaillances d'un État libanais moribond.
Valérie Crova de la rédaction internationale de Radio France. Sur le site internet de France Inter, retrouvez le grand entretien consacré ce matin à la situation au Liban avec la romancière Iyam Yared et le politologue Joseph Baou. L'attentat suicide qui a fait 8 morts hier soir à Kaboul portait bien la signature des talibans. Les fondamentalistes religieux qui tentent de s'emparer du pouvoir en Afghanistan l'ont revendiqué ce matin. Dans un communiqué, un porte-parole taliban promet d'autres attaques contre le régime. Dans le même temps, l'armée afghane prépare son offensive pour récupérer l'Ashkarga dans le sud du pays. Des milliers d'habitants sont en train de fuir la ville.
France Inter, le journal de 13h. Cécile Bideau.
Face à la crise du Covid, le plan de relance est censé aider le tissu économique français à construire le monde d'après. Une enveloppe de 100 milliards d'euros annoncée il y a un an et qui commence à se décliner dans les régions. Et il n'y a pas que les grands projets qui sont concernés, les petites unités aussi. Une enveloppe d'1 million est dédiée aux artisans d'art qui subissent la crise de plein fouet. Un appel à candidature est lancé cette semaine. Fabien Cazot.
1 million d'euros pour restaurer 230 bijoux du patrimoine national. salles, du mobilier art déco, un ancien lustre de l'Élysée, des pièces de l'exposition universelle de 1937, la mission sera confiée à des artisans d'art qui ne demandent qu'à travailler. Bénéficiant de crédits du plan de relance, le directeur du mobilier national, Hervé Lemoine, lance un appel à candidature.
La France a la chance d'avoir un très très grand nombre de métiers fort rares, hein, des passementiers, des vanniers, des gainiers, des brossiers, des tourneurs sur bois, enfin bref, beaucoup de métiers qui n'existent plus parfois que chez nous, qu'en France. C'est un petit écosystème très fragile, mais je pense que c'était important dans le cadre du plan de relance actuel de distinguer ce secteur, qui est un secteur à la fois créatif et un secteur porteur d'avenir, parce que tous ces artisans, tous ces savoir-faire, ils sont en plus présents partout sur notre territoire.
Une filière qui a particulièrement souffert depuis l'année dernière de la raréfaction d'une clientèle internationale aisée et qui espère maintenant rebondir grâce notamment au soutien de la commande publique.
Conduire sans assurance semble être devenu un sport national en France. Selon le baromètre annuel du Fonds de garantie, 30 000 personnes ont été victimes d'un accident de la route causé par un conducteur en défaut d'assurance. Pour l'auteur de l'étude, c'est aussi une conséquence de la crise sanitaire. En difficulté financière, des automobilistes ont renoncé à s'assurer. Comme promis, nous reprenons la direction de Tokyo et de ses JO pour saluer les performances des équipes françaises de sport collectif. Le BHV va bien, et cela n'a rien à voir avec le magasin parisien. BHV pour basket, hand, volley. Dans ces trois disciplines, les hommes sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Et Xavier Monferrand, c'est du jamais vu.
Oui, on se croirait un peu revenu au siècle dernier, au temps de l'URSS, hein, qui squattait tous les derniers carrés des Jeux Olympiques, notamment dans les disciplines qui faisaient leur force, les épreuves collectives et particulièrement les sports de salle, vous l'avez dit, le BHV, basket, hand, volley. Et là, les planètes sont alignées comme jamais pour la délégation française. 5 équipes en salle engagées, 5 équipes toujours en lice. En deuxième semaine, à vous rendre jaloux, les Français de Roland-Garros, les handballeurs, les basketteurs et les volleyeurs qualifiés pour le dernier carré des JO. Et puis aujourd'hui, c'est donc au tour des filles d'aller chercher leur place en demi-finale. Les basketteuses face à leurs grandes rivales espagnoles et les handballeuses, ici même où je me trouve au gymnase Yoyogi, face à leurs meilleurs ennemis, les néerlandaises avec lesquelles elles ne partiront pas en vacances, je vous le garantis. Bref, c'est une soirée âpre qui attend le sport collectif français. En fait, il n'y a qu'un seul mauvais élève dans cette équation, les footballeurs éliminés dès la phase de poule. Une équipe faite de briques et de brocs, la faute à des clubs qui n'ont pas voulu libérer leurs joueurs au nom de l'esprit olympique.
Xavier Monferrand en direct de Tokyo grâce aux équipes techniques de Radio France. La 25e médaille française est en bronze, remportée ce matin en voile par Camille Lecointre et Aloïse Retornaz en dériveur double 470. En cyclisme sur piste, l'Italie impériale lors de la finale de poursuite par équipe obtient une médaille d'or et bat le record du monde. Record mondial aussi pour l'américaine Sydney McLaughlin qui décroche l'or sur 400 mètres haies. La sprinteuse biélorusse Kristina Tsimanouskaya a quant à elle quitté Tokyo de son plein gré cette fois. Les autorités de son pays avaient voulu la faire rentrer de force dimanche. Elle avait alors lancé un appel au secours. Appel entendu puisque la Pologne lui accorde un visa humanitaire. Elle est actuellement dans l'avion pour Vienne en Autriche où elle fait escale avant de rejoindre Varsovie. C'est un peu leur QR code à eux. 600 bébés flamants roses sont en train d'être bagués en Camargue. 160 000 de ces oiseaux migrateurs s'installent chaque été au Salin d'Aigues Mortes. Et pour mieux les connaître, savoir comment évolue la colonie d'année en année, des bénévoles leur posent une bague à la patte. Au coucher du soleil, sous un ciel rose comme les flamands, Juliette Pierron a suivi les opérations.
Tout d'abord, l'équipement. Un vieux jean, des chaussures pour aller dans l'eau et un bâton.
C'est juste pour les empêcher de sortir, les diriger oui, vers l'enclos.
Les 120 bénévoles répartis autour du troupeau de poussins flamands sont prêts à partir. Philippe, un habitué du bagage, rappelle une dernière fois les consignes.
S'il y en a 2-3 qui passent parce qu'ils sont vaguement égarés de la grosse troupe, on les laisse passer, on s'en fiche. Hein. Très important ça.
Les voilà dans l'eau. La stratégie, resserrer lentement le cercle autour des oiseaux pour les pousser vers l'enclos. Et une fois qu'ils y sont, il faut faire vite car les poussins stressés peuvent se blesser. Là aussi, chacun a son rôle.
Qui est le poseur dans l'équipe numéro 5?
C'est Patrick.
Là. D'abord, les bagueurs.
Je vais la mettre vers le bas aussi.
Okay. Ensuite, les peseurs et les mesureurs.
200 piles, 200 piles.
200 mm, c'est ça?
200 mm.
Vous avez mesuré la patte et l'aile, c'est
voilà,
ça?
Voilà, le tarse et l'aile, ouais.
Qu'est-ce que vous devez faire, vous?
On doit les peser et prendre des plumes.
Ça y est, les 600 bagues ont été mises. Tous les oiseaux encore dans l'enclos peuvent donc être relâchés.
Allez, on ouvre!
Allez, on ouvre!
Les flamands retournent au marais sans demander leur reste. Désormais, ils pourront être étudiés tout au long de leur vie.
Juliette Pierron de France Bleu, Gare Lozère. Un petit mot encore sur Kevin Mayer. Le décathlonien français est engagé sur la hauteur en ce moment même et il vient de réussir son troisième essai à 2,05 m. Et puis Barbie, à l'heure du Covid, il existe désormais une poupée Barbie à l'effigie de la co-créatrice du vaccin AstraZeneca. La Britannique Sarah Gilbert a qualifié cette initiative du fabricant de jouets Mattel d'étrange, mais elle espère que cela pourra inspirer des jeunes filles et les inciter à travailler dans le domaine des sciences.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Cécile, bonjour à tous.
Le temps est bien agité aujourd'hui, hein ?
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le pays est concerné par une perturbation qui a balayé une large moitié sud depuis hier soir. Cette perturbation maintiendra des pluies régulières cet après-midi entre la Franche-Comté et la Côte d'Azur, ainsi que sur l'est du Languedoc, avec même parfois de l'orage. Entre les rives de la Garonne et les bords de la Seine, ce sont des averses qui sont attendues cet après-midi, avec également des risques orageux. Les averses seront quand même plus rares en allant vers l'ouest et le nord, près de la Manche et sur le sud de la Bretagne. Les éclaircies seront plus franches. Sur le Grand Est, le ciel deviendra de plus en plus laiteux à cause d'un voile de nuages assez épais. Ciel voilé également pour la Corse cet après-midi, mais avec tout de même une impression bien ensoleillée. Et puis la fraîcheur qui règne sur le pays va se propager vers le pourtour méditerranéen. À peine 22 degrés à Montpellier, à Toulouse, à Limoges, à Strasbourg ou à Paris. 24 degrés à Marseille. Mais en Corse, le soleil permet d'avoir quand même 30 degrés à Calvi et 34 degrés à Figari.
Sébastien Léas de Météo France.